vous apercevez cet homme qui avance ? Silhouette fine, costume élégant. Vous voyez ce visage sage, avec cette petite moustache bien peignée ? Vous entendez ?
Mes hommages, monsieur. C'est une bien belle journée, n'est-ce pas ?
Oui, cette façon de parler, si calme, si polie. Et si je vous disais que ce zigoto est un fou furieux, accro au risque et à l'aventure ? Paul Durand-Ruel est marchand de tableaux. Sa passion, dégoter des pépites. Le jour, la nuit, il visite les expositions et les ateliers pour dénicher l'œuvre qui le fera chavirer. Oh. Poursuivi par les banquiers, moqué, hué, il va d'aventure en déconfiture, souvent à deux doigts du fiasco.
La banqueroute ? Mais c'est rigolo, ça rime avec croûte. Perdre ma réputation, mais chez moi, c'est devenu une vocation.
Dès les années 1870, alors que personne ne croyait en eux, il s'est battu bec et ongles pour défendre les peintres impressionnistes. Il les a soutenus, nourris, lavés, logés, accompagnés chez le dentiste. Oh oui, bon, j'exagère. En tout cas, il a été jusqu'aux États-Unis pour les faire connaître. Jamais il ne les a laissés tomber.
Eh bien oui, Laure, ce sont des artistes, pas de vieilles chaussettes.
Sa vie est plus risquée que les montagnes de l'Himalaya. Voici l'Odyssée de Paul Durand-Ruel, fou amoureux de peinture et peut-être, oh oui, un peu photocourt. Nous sommes à Paris, en 1851. C'est le joli mois de mai, ou peut-être celui de juin. Le soleil, cercle d'or dans le ciel bleu, fait pétiller la ville de joie et de bonne humeur.
Oui, enfin, ça c'est quand on l'a pas en plein de la poire, hein.
Paul Durand-Ruel, 20 ans, transpire à grosses gouttes.
Oh non, ça va faire des auréoles sur mon costume.
Le visage grimaçant, il plisse les yeux et fronce les sourcils. Oh, attendez une petite seconde. Ce ne sont pas seulement ses aisselles qu'il chiffonne. Oh, sapristi, Paul est inquiet, que dis-je ? Il est tiraillé. Jean, son père, lui a demandé de rejoindre le commerce familial, alors que lui ne rêve que d'une chose, partir à l'aventure. Ouh, sacré coup dur. Mais son père d'ailleurs, que fait-il ? Jean est marchand d'art. Tout a commencé il y a jolie lurette, dans une boutique pas tout à fait comme les autres. Ah bon ? Oh ben alors vite, entrons ! Bienvenue dans la papeterie des Durand-Ruel. Ici, on vend du papier et des crayons, bien sûr, mais aussi des toiles, des pinceaux, des boîtes à couleurs. Bref, tout le matériel indispensable aux artistes. Le problème, c'est qu'ils sont souvent fauchés.
S'ils ne veulent pas régler leurs notes, qu'ils me laissent une ou deux toiles en échange, je les présenterai dans la vitrine.
Excellente idée ! Peu à peu, les tableaux envahissent la famille. Jean a tellement de toiles qu'il les expose même chez lui, dans son saloon. Tiens, c'est bizarre.
Oh, mais oui, évidemment. Ce n'est pas son saloon, mais son salon.
Paul grandit entouré de peintures, et pas n'importe lesquelles. Son père ne choisit que des œuvres nouvelles, à la pointe de la création. Mais tout cela, hélas, ne fait pas rêver son fils.
Tu parles d'une vie. Acheter, vendre, acheter, vendre, racheter, revendre, c'est d'un ennui.
Oh. Et c'est la mort dans l'âme que Paul suit les pas de son père. Heureusement, le pays est moins déprimé que lui. Après avoir été secoué par trois révolutions, la France retrouve enfin la stabilité. Pour épater le monde entier, un énorme événement de renommée internationale, appelé Exposition Universelle, est organisée à Paris en 1855. Des mois durant, la foule se presse sur les Champs-Élysées. Ce qu'on peut voir ? Ah ben, ma foi, un peu de tout.
Allez, chabouchou, pâte molle, cœur crémeux, n'hésitez pas, venez croquer dans les fromages.
Alors, oui, il y a des produits du terroir, mais aussi des inventions, des machines, et bien sûr, de l'art. Une salle presque entière est consacrée à Eugène Delacroix, un peintre vivant qui déchaîne les passions depuis quelques années. À peine Paul a-t-il posé ses yeux sur cette toile incendiée de couleurs vives que ses genoux tremblent, son cœur bat la chamade.
Ce mouvement, cette puissance, cette liberté, et dire que personne ne voulait ces toiles quand Delacroix était jeune. Un génie pareil, si longtemps incompris. Oh, le public est sacrément aveugle.
Oh, je sais.
Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. La voilà, ma vocation. Faire connaître et aimer les artistes de mon temps.
Paul, marchand d'art, a désormais une mission, défendre les peintres. En quelques années, sa vie change. D'abord, il se marie avec Jeanne-Marie Eva Lafont, une jeune femme de 10 ans son aînée.
Oh, bravo! Vive les mariés! Ah bah moi, j'adore les histoires d'amour!
Et puis, à la mort de son père, il prend officiellement les rênes de la galerie.
Mon père avait du flair, de l'intuition et le sens des affaires. Je lui ferai honneur.
Une nouvelle ère commence! Yahoo! La première chose, quand on veut défendre des artistes vivants, c'est les rencontrer. Et pour ça, faut chercher! Paul est dans tous ses états. Tous les jours, il a besoin d'émerveiller sa pupille. Le bonhomme est absolument accro!
Des toiles, je veux voir de nouvelles toiles. Donnez-moi des toiles partout, je veux en voir partout.
Attendez, je sens quelque chose. Là,
là, ça sent la merveille. Oh oui, je fonce.
S'il y a une merveille cachée dans une exposition ou au fond d'un atelier, tu peux être sûr d'une chose, Paul la trouvera. Ce qu'il préfère, ma foi, aller à la drille. Enfin, je veux dire, à l'hôtel Drouot, la plus grande salle des ventes de Paris. Drouot, c'est un peu comme une foire d'empoigne. Les tableaux sont mis aux enchères et partent avec le vendeur le plus offrant. Oups, non, je suis là, excusez-moi. Personne ne se fait de cadeau. Paul bondit de sa chaise, il crie, il hurle en levant la main. Oh purée, il n'a plus de limite.
Non, 600, c'est pour moi.
En quelques années, le marchand se taille une sacrée réputation.
Monsieur Durand-Ruel, ses choix sont éblouissants. C'est dans sa galerie, rue Le Pelletier, qu'il faut aller.
Ouh, le gentil monsieur a intérêt à se dépêcher. En juillet 1870, la France entre en guerre contre la Prusse. Paul envoie sa femme et ses 5 enfants à la campagne, tandis qu'il file à Londres, en Angleterre, les valises remplies de tableaux.
Ce serait dommage de louper de si belles occasions.
Arrivé dans la capitale anglaise, notre bonhomme ouvre une nouvelle galerie.
On va voir comment nos amis English réagissent à l'art français.
Paul n'est pas le seul Français réfugié à Londres. Des artistes ont également fui la guerre, et parmi eux, un certain Claude Monet. Paul a bien remarqué ses toiles lors des dernières expositions à Paris, mais il n'a jamais réussi à le rencontrer.
Le problème avec les artistes qui aiment peindre dehors, c'est qu'ils sont tout le temps à la campagne.
Ce qui n'a plus arrivé en France se produit en Angleterre. En un regard, une poignée de portes, non, de mains, un sourire, les vies de Paul et de Claude changent à tout jamais. À Londres, Monet peint comme un petit fou. Le soleil qui passe à travers le fog, ce brouillard si typique de la ville, l'inspire. Sur ses toiles, la lumière dispersée en 1000 reflets apparaît et disparaît dans la brume. Paul a la mâchoire qui tremblote. Oh purée, ça fait comme avec de la croix. Ce qu'il a sous les yeux est absolument renversant. On dirait que la toile vibre. Immédiatement, il achète ses toiles. Cette obsession de la lumière, cette façon de tremper son pinceau dans la vie, Claude la partage avec toute une bande d'amis peintres qui veulent réinventer la peinture. À la bonne heure ! La guerre terminée, de retour à Paris, Paul les rencontre tous. Auguste Renoir, Édouard Manet, Edgar Degas, Berthe Morisot, ils décident de vendre leurs toiles. Pardon Paul, mais est-ce que vous êtes au courant que personne ne veut les acheter ?
Ah bon ? Et pourquoi donc ?
Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ne suivent pas les règles imposées par l'Académie des Beaux-Arts. Du coup, le public trouve leurs toiles bizarres, mal peintes, bref, ratées.
Oh, mais vous me prenez pour une bille ou quoi ? Évidemment que je sais tout ça. Ces peintres ont de l'or au bout de leur pinceau et c'est tout ce qui m'intéresse. Ce que je cherche, c'est la nouveauté, l'audace. Je suis mon instinct.
Ah, eh bien, il est rudement efficace cet instinct. Un jour, après avoir visité l'atelier de Manet, il lui achète 23 toiles d'un coup. Toute sa vie tourne désormais autour de ces artistes qu'on appelle depuis peu impressionnistes. La passion, ça permet de surmonter le chagrin. Et Paul, on a diablement besoin. Il y a quelques années, sa femme est morte à cause d'une vilaine pneumonie, le laissant seul avec ses 5 enfants. Alors bon, ce n'est pas facile tous les jours, mais il s'accroche.
Bon, allez, haut les cœurs. Une nouvelle vente m'attend à Drouot.
Paul ne perd jamais espoir. Toujours droit, toujours digne, il n'abandonne jamais ni ses idéaux, ni ses amis. Il l'encourage, cajole, rassure.
Je sais que vous n'êtes jamais satisfait par votre art, Monet, mais je vous en supplie, ne détruisez pas vos toiles. Faites-moi confiance, je me battrai pour vous jusqu'au bout. Bientôt viendront des jours meilleurs.
En attendant, Paul n'hésite pas à ouvrir son porte-monnaie et de façon très créative. Il a une idée complètement dingue. Verser un salaire aux peintres fauchés pour leur permettre de créer sans peur du lendemain. Et il ne s'arrête pas là. Monet crève la faim, il règle son loyer, il lui achète du matériel, il paye les vêtements des enfants. Oui, Paul est un drôle de marchand qui se fiche un peu de l'argent. Lorsqu'il achète des toiles, ses prix sont toujours supérieurs à ceux demandés par les artistes. Alors, très vite, le mot circule.
Eps, si tu fais affaire avec Paul, un conseil. Boucle-la et attends sa proposition. Tu verras, tu ne seras pas déçu.
Entre nous, heureusement qu'il est là. 20 ans après les avoir rencontrés, les peintres impressionnistes ne séduisent toujours pas le grand public. La réputation de Paul, d'ailleurs, en a pris un sacré coup. Personne ne comprend pourquoi il s'acharne à soutenir ces peintres qu'on trouve médiocres ou bien... Oh bah fou.
Paul Durand-Ruel, le pauvre a complètement perdu les pédales. Il va bientôt mettre la clé sous la porte.
Les clients ne lui font plus confiance, les caisses se vident.
Bon, je... C'est-à-dire que je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais là... Je crois que je sèche un peu.
Notre vaillant camarade est-il en train de perdre courage ? Oh mais non, non ! Dans ses yeux s'allument tout un tas de petites étoiles. Oh, tiens, comme sur le drapeau américain.
Tout juste, l'or. Puisque la France est trop étroite pour mes impressionnistes, je traverserai l'Atlantique. J'irai les défendre aux États-Unis. Et puis, j'espère au passage que je renflouerai mes caisses.
Maxi Youpi ! En 1886, Paul Durand-Ruel, 60 ans, organise une grande exposition à New York pour présenter ses plus belles toiles.
Bravo, bravo, c'est magnifique. Bravo, bravo, bravo.
Et cette fois, oui, le succès est là. La vie des peintres impressionnistes change à tout jamais.
Et grâce à qui ? Grâce à Bibi !
Ainsi vécu Paul Durand-Ruel, le plus décoiffant des marchands d'art. S'il n'avait pas soutenu tous ses peintres, qui sait si l'histoire de l'art n'aurait pas perdu un bras ou une jambe ?
Ouch !
Paul Durand-Ruel a inventé une nouvelle façon d'accompagner les artistes. Il a révolutionné le monde de la peinture. Derrière cet épisode, il y a Dofar Guéride, Basile Bocquer, Fanny Leroy, Marion Lelay, Clarisse Horn, Elodie Fiat, les équipes du Musée d'Orsay et moi, Laure Grand-Besançon. Paul Durand-Ruel n'est pas le seul soutien des peintres impressionnistes. Certains peintres de la bande, issus de familles de la grande bourgeoisie, étaient également de grands collectionneurs. C'est le cas de Gustave Caillebotte, qui a acheté de nombreuses toiles à ses camarades. Le bonhomme avait aussi beaucoup de talent. L'une de ses plus belles toiles, Les Raboteurs de Parquet, se trouve au Musée d'Orsay. N'hésite pas à y jeter un œil. Ou bien les deux. Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie est un podcast original de France Inter.